sans froid voir battre un enfant.
« Je m'appelle Dussardier. J'ai M. Vanassar, frère Dentelle et Nouveauté, rue de Cléry. Où est mon carton ? Je veux mon carton !»
Il répétait.
« Dussardier, rue de Cléry, mon carton !»
Il s'apaisa pourtant, et d'un air stoïque, se laissa conduire vers le poste de la rue Descartes. Un flot de monde le suivit. Frédéric et le jeune homme à moustache marchaient immédiatement par derrière, pleins d'admiration pour le commis et révoltés contre la violence du pouvoir. À mesure que l'on avançait, la foule devenait moins grosse. Les sergents de ville, de temps à autre, se retournaient d'un air féroce, et les tapageurs n'ayant plus rien à faire, les curieux rien à voir, tous s'en allaient peu à peu. Des passants que l'on croisait considéraient Dussardier et se livraient tout haut à des commentaires outrageants. Une vieille femme, sur sa porte, s'écriait même qu'il avait volé un pain. Cette injustice augmenta l'irritation des deux amis. Enfin, on arriva devant le corps de garde. Il ne restait qu'une vingtaine de personnes. La vue des soldats suffit pour les disperser. Frédéric et son camarade réclamèrent hardiment celui qu'on venait de mettre en prison. Le factionnaire les menaça, s'ils insistaient, de les y fourrer eux-mêmes. Ils demandèrent le chef du poste et déclinèrent leur nom avec leur qualité d'élève en droit, affirmant que le prisonnier était leur condisciple. On les fit entrer dans une pièce toute nue, où quatre bancs s'allongeaient contre les murs de plâtre enfumés. Au fond, un guichet s'ouvrit. Alors parut le robuste visage de Dussardier, qui, dans le désordre de sa chevelure, avec ses petits yeux francs et son nez carré du bout, rappelait confusément la physionomie d'un bon chien. « Tu ne nous reconnais pas ?» dit Hussonnet. C'était le nom du jeune homme à moustache. « Mais, » balbutia Dussardier.
« Ne fais donc plus l'imbécile, » reprit l'autre. « On sait que tu es, comme nous, élève en droit. »
Malgré leur clignement de paupières, Dussardier ne devinait rien. Il parut se recueillir, puis tout à coup,
« A-t-on retrouvé mon carton ?»
Frédéric leva les yeux, découragé. Hussonnet répliqua.
« Ah, ton carton, où tu mets tes notes de cours ? Oui, oui, rassure-toi. »
Ils redoublaient leur pantomime. Dussardier comprit enfin qu'ils venaient pour le servir, et il se tut, craignant de les compromettre. D'ailleurs, il éprouvait une sorte de honte en se voyant haussé au rang social d'étudiant, et le pareil de ces jeunes hommes qui avaient des mains si blanches.
« Veux-tu faire dire quelque chose à quelqu'un ?»
demanda Frédéric.
« Non, merci, à personne. Mais ta famille ?»
Il baissa la tête sans répondre. Le pauvre garçon était bâtard. Les deux amis restaient étonnés de son silence.
« As-tu de quoi fumer ?»
reprit Frédéric. Il se palpa, puis retira du fond de sa poche les débris d'une pipe. Une belle pipe en écume de mer, avec un tuyau en bois noir, un couvercle d'argent et un bout d'ambre. Depuis 3 ans, il travaillait à en faire un chef-d'œuvre. Il avait eu soin d'en tenir le fourreau constamment serré dans une gaine de chamois, de la fumer le plus lentement possible, sans jamais la poser sur du marbre, et, chaque soir, de la suspendre au chevet de son lit. À présent, il en secouait les morceaux dans sa main dont les ongles saignaient, et le menton sur la poitrine, les prunelles fixes, béants, il contemplait ces ruines de sa joie avec un regard d'une ineffable tristesse.
« Si nous lui donnions des cigares, hein ?» dit tout bas Hussonnet en faisant le geste d'en atteindre.
Frédéric avait déjà posé au bord du guichet un porte-cigare rempli.
« Prends donc. Adieu, bon courage. »
Dussardier se jeta sur les deux mains qui s'avançaient. Il les serrait frénétiquement, la voix entrecoupée par des sanglots.
« Comment ? À moi ? À moi ?»
Les deux amis se dérobèrent à sa reconnaissance, sortirent, et allèrent déjeuner ensemble au café Tabouret, devant le Luxembourg. Tout en séparant le beefsteak, Hussonnet apprit à son compagnon qu'il travaillait dans des journaux de mode et fabriquait des réclames pour l'art industriel.
« Chez Jacques Arnoux, »
dit Frédéric.
« Vous le connaissez ?»«
Oui, non, c'est-à-dire je l'ai vu, je l'ai rencontré. » Il demanda négligemment à Hussonnet s'il voyait quelquefois sa femme.
« De temps à autre, »
reprit le bohème. Frédéric n'osa poursuivre ses questions. Cet homme venait de prendre une place démesurée dans sa vie. Il paya la note du déjeuner, sans qu'il y eût de la part de l'autre aucune protestation. La sympathie était mutuelle. Ils échangèrent leurs adresses, et Hussonnet l'invita cordialement à l'accompagner jusqu'à la rue de Fleurus. Ils étaient au milieu du jardin quand l'employé d'Arnoux, retenant son haleine, contourna son visage dans une grimace abominable et se mit à faire le coq. Alors tous les coqs qu'il y avait aux environs lui répondirent par des cocoricots prolongés. C'est un signal, dit Hussonnet. Ils s'arrêtèrent près du théâtre Bobineau, devant une maison où l'on pénétrait par une allée. Dans la lucarne d'un grenier, entre des capucines et des pois de senteur, une jeune femme se montra nu-tête, en corset, et appuyant ses deux bras contre le bord de la gouttière. « Bonjour, mon ange, bonjour, Bibiche !» fit Hussonnet en lui envoyant des baisers. Il ouvrit la barrière d'un coup de pied et disparut. Frédéric l'attendit toute la semaine. Il n'osait aller chez lui, pour n'avoir point l'air impatient de se faire rendre à déjeuner. Mais il le chercha partout le quartier latin. Il le rencontra un soir et l'emmena dans sa chambre sur le quai Napoléon. La causerie fut longue. Ils s'épanchèrent. Hussonnet ambitionnait la gloire et les profits du théâtre. Il collaborait à des vaudevilles non reçues, avait des masses de plans, tournait le couplet. Il en chanta quelques-uns. Puis, remarquant dans l'étagère un volume de Hugo et un autre de Lamartine, il se répandit en sarcasme sur l'école romantique. Ces poètes-là n'avaient ni bon sens ni correction, et n'étaient pas français surtout. Il se vantait de savoir sa langue, et épluchait les phrases les plus belles avec cette sévérité hargneuse, ce goût académique qui distingue les personnes d'humeur folâtre quand elles abordent l'air sérieux. Frédéric fut blessé dans ses prédilections. Il avait envie de rompre. Pourquoi ne pas hasarder tout de suite le mot d'où son bonheur dépendait? Il demanda au garçon de lettres s'il pouvait le présenter chez Arnoux. La chose était facile et ils convinrent du jour suivant. Hussonnet manqua le rendez-vous. Il en manqua trois autres. Un samedi, vers 4 heures, il apparut. Mais, profitant de la voiture, il s'arrêta d'abord au Théâtre Français pour avoir un coupon de loge. Il se fit descendre chez un tailleur, chez une couturière. Il écrivait des billets chez les concierges. Enfin, ils arrivèrent boulevard Montmartre. Frédéric traversa la boutique, monta l'escalier. Arnoux le reconnut dans la glace placée devant son bureau, et tout en continuant à écrire, lui tendit la main par-dessus l'épaule. 5 ou 6 personnes, debout, emplissaient l'appartement étroit, qu'éclairait une seule fenêtre donnant sur la cour. Un canapé en damas de laine brune occupait au fond l'intérieur d'une alcôve entre 2 portières d'étoffe semblables. Sur la cheminée couverte de paperasse, il y avait une Vénus en bronze,